Ecclésiaste chapitre 10, versets 16 à 17. Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux es-tu, pays, dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent quand il est temps, pour réparer leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Bonjour à tous, frères et sœurs, et bon sabbat à vous tous. Que Dieu vous bénisse et que puisse Dieu nous bénir par son Saint-Esprit dans cette étude sur la tempérance et la régularité. Deuxième partie. Donc c'est la deuxième partie de cette étude que nous avions débutée sabbat dernier sur la question de la tempérance et à quoi nous avons aussi ajouté, c'est sur quoi nous allons maintenant méditer, le sujet de la régularité qui est directement lié et que j'aimerais justement mentionner par le moyen de cette déclaration de l'esprit de prophétie que nous trouvons dans le livre Éducation à la page 233 et paragraphe 3 à titre d'introduction ici de cette étude d'aujourd'hui. Je lis Éducation page 233 et il est écrit ceci par rapport au lien entre la tempérance et la régularité. Je lis: la pratique de la tempérance et de la régularité ont un merveilleux pouvoir. Je répète, la pratique de la tempérance et de la régularité a un merveilleux pouvoir. Cette tempérance, cette régularité, contribue bien mieux que les circonstances ou les aptitudes naturelles à développer la douceur et l'égalité d'humeur qui aplanissent si bien le chemin de la vie. D'autre part, la maîtrise de soi ainsi acquise sera une des armes les plus solides pour affronter avec succès les dures réalités, les devoirs rigoureux qui sont le lot de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que c'est qui a un merveilleux pouvoir, selon les dires de l'esprit des prophéties ici? La pratique, hein, littéralement en anglais, l'observation de la tempérance et de la régularité. Cette tempérance et cette régularité, quand nous les observons, ont un merveilleux pouvoir qui contribue bien mieux que nos circonstances ou nos aptitudes, c'est-à-dire nos capacités naturelles, à développer la douceur, l'égalité d'humeur, c'est-à-dire plutôt que de faire des hauts et des bas, la tempérance et la régularité permettent de développer en nous la douceur qui est liée à l'humilité, au caractère de Christ, qui est Dieu, ainsi que l'égalité d'humeur qui aplanissent si bien le chemin de la vie. Donc la tempérance et la régularité facilitent pour nous le chemin de la vie, quand bien même il soit aussi parfois chargé et parsemé d'épines et de difficultés donc. Et nous lisons d'ailleurs à la suite que, d'autre part, la maîtrise de soi ainsi acquise, c'est-à-dire que nous acquérons à travers la pratique de la tempérance et de la régularité, sera cette maîtrise de soi en nous, c'est-à-dire acquise par la pratique, sera et deviendra une des armes les plus solides pour affronter avec succès les dures réalités, les devoirs rigoureux qui sont notre lot sur cette terre. Vous voyez un peu le lien? Et donc, ici, ça nous permet de faire le pont entre notre méditation précédente, où nous étions surtout concentrés sur la question de la tempérance, avec cette fois-ci la question de la régularité qui va faire l'objet tout particulièrement l'objet de notre étude aujourd'hui, la régularité. Nous voulons contempler aujourd'hui à la fois ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet et ce que l'esprit de prophétie, comment l'esprit de prophétie nous éclaire davantage sur ces bases que nous allons maintenant explorer dans la Bible. Et donc, voyons ensemble, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, le principe de régularité qui est présenté et enseigné. Nous voulons voir que la parole de Dieu nous présente cette base, ce début de principe de régularité que l'on va ensuite élargir. Allez avec moi dans Genèse chapitre 8. Dans Genèse chapitre 8, versets 21 à 22. Et tout particulièrement le verset 22, le verset 21, c'est pour le contexte. Et l'Éternel respira l'agréable odeur. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Après que Noé eut offert son holocauste sur l'autel, après qu'il soit sorti de l'arche, hein, comme nous lisons au verset 18. Ensuite, l'Éternel respira l'agréable odeur du sacrifice de Noé et de sa famille fait à lui, et en son nom, et en son honneur, et comme signe d'adoration à lui. Et l'Éternel dit en son cœur, de point, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Donc vous voyez ici la question de régularité que Dieu lui-même illustre par cette déclaration selon laquelle il dit qu'il ne fera plus venir de déluge sur la terre, quoi que nous lisions dans l'épître à Pierre, la première ou la deuxième, que quoique le monde fût détruit par les eaux, cette fois-ci il sera détruit par le feu. Mais quoi qu'il en soit, ici, dans ce verset 22, Dieu montre que le principe, il illustre par son propre agencement, sa propre organisation du fonctionnement de la terre sous l'emprise du péché, il illustre même alors le principe de la régularité. Hein? Il dit les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver. On pourra aussi ajouter le printemps et l'automne. Le jour et la nuit ne cesseront point. Donc Dieu dit et nous montre ici ce principe de régularité qu'il promet de maintenir tant que la terre durera. Et plus encore, maintenant, nous nous tournons vers Ecclésias, chapitre 3. Donc, nous voyons que dans la nature, à travers la création de Dieu, quand bien même elle a été entachée et pervertie et dégradée par le péché, Dieu, alors même, a promis la continuité d'une certaine régularité, hein, la régularité des saisons, la régularité du jour et de la nuit, la régularité même des pluies. Parce que quand il dit les semailles et la moisson, il est en train de dire quelque chose qui n'est pas écrit, c'est-à-dire qu'il va continuer à pourvoir de manière régulière les pluies et l'ensoleillement, de sorte que la semaille puisse parvenir, les semailles puissent parvenir à la moisson. Parce que les semailles sans pluie, ça ne donne absolument rien. La graine, le germe a besoin d'eau pour que la plante puisse croître et grandir et produire des fleurs et que ces fleurs puissent partir en fruits et que ces fruits puissent mûrir et que cette maturité puisse être venir à son accomplissement et que l'on puisse récolter ses fruits et que cela puisse représenter une réelle moisson, pas juste des grappillages. Vous comprenez? Donc Dieu est en train de dire ici qu'il va il va s'arranger parfaitement selon sa providence et sa toute-puissance pour qu'il y ait une régularité dans la nature. Et on va pouvoir maintenant contempler comment cela va s'appliquer aux êtres humains, et tout particulièrement à nous qui cherchons à être instruits par les principes de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc, comme je le disais, nous nous tournons vers Ecclésiaste chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8, où nous voyons encore ce principe de régularité et de réitèrement de choses qui reviennent. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, je lis. À toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. Il y a un temps pour naître, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour démolir, et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, et un temps pour sauter de joie. Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour les ramasser. Un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, et un temps pour laisser perdre. Un temps pour conserver, et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, et un temps pour parler. Un temps pour aimer, et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Vous voyez? C'est tous ces temps, tous ces opposés, ils impliquent une certaine régularité. Quoique toutes ne sont pas forcément la volonté de Dieu, parce qu'il décrit un temps pour tuer, un temps pour guérir. Toutes ne sont pas forcément la volonté de Dieu, parce qu'il est écrit aussi au verset 8, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alors, Dieu est pour la paix, mais Dieu n'est pas pour la guerre. Mais toutefois, il dit que dans l'orchestration des événements et des affaires des hommes, même dans cette orchestration-là, Dieu a pourvu une certaine régularité, une certaine répétition, un temps pour toutes choses. Vous voyez ici le principe de régularité qui est instauré même dans la création rendue souillée par le péché et même encore dans les activités des hommes qui eux-mêmes sont des pécheurs. Vous comprenez? Et donc, frères et sœurs, Dieu nous inculque à travers la nature le principe de régularité. Chaque année, les saisons reviennent dans le même ordre et à la même période. Plus encore, chaque soir, les oiseaux se retirent et cessent leur chant. Et chaque matin, elles reprennent leur activité. Vous voyez cette répétition, cette régularité? Mais maintenant, comment est-ce que la Bible présente et enseigne le fondement de la régularité dans la tempérance? Parce que là, nous avons vu la régularité dans la nature, dans la création, et puis également, comme je l'ai dit juste avant, dans l'orchestration des événements humains, des activités humaines. Mais comment la Bible présente-t-elle et enseigne-t-elle le fondement de la régularité dans la tempérance, dans le fait, dans l'activité de la tempérance et de la pratique de la tempérance et de la régularité par l'homme et dans l'homme. Pour cela, nous tournons vers notre passage biblique dans Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10, versets 16 à 17, c'était notre lecture biblique. Et nous allons contempler ensemble le sens et les implications qui sont derrière ces paroles inspirées. Je lis. Ecclésiaste 10, verset 16. « Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux es-tu, pays, dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent quand il est temps, pour réparer leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Voyez ici le lien qui est fait directement avec ce que nous avons lu dans Ecclésias chapitre 3, c'est-à-dire à chaque chose que je ne écorche pas la parole, à toute, je lis Ecclésias chapitre 3 verset 1, à toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. Et ici, nous voyons bien le fondement, hein, la base du principe de régularité dans la tempérance. Et de tempérance et de régularité, qu'est-ce que c'est? Il est écrit heureux, es-tu pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent quand il est temps pour réparer leur force et non pour se livrer à la boisson. Vous avez ici le principe à la fois de la tempérance et de la régularité. Comment est-ce que le principe de tempérance s'est exprimé? À travers ces quelques mots ici, à savoir pour réparer leur force et non pour se livrer à la boisson. Le principe de tempérance, c'est de manger pour réparer nos forces, manger pour nous nourrir, manger pour être en santé, plutôt que de manger pour se livrer à la boisson, à l'enivrement des sens, qui se fait pas seulement à travers l'alcool, mais également à travers l'intempérance. Car l'intempérance émousse nos sens parce qu'elle nous fait mettre un poids sur l'estomac, qui va requérir, qui va demander à l'estomac de plus d'énergie qu'il n'a d'habitude le besoin. L'intempérance va mettre un poids sur l'estomac qui va demander à cet estomac plus d'énergie qu'il n'en a généralement besoin, de sorte qu'il va devoir prendre de l'énergie dont nous avons besoin pour rester cohérent, rester avec une emprise de nous-mêmes, parce que les forces que l'estomac a besoin pour digérer tout ce que nous avons mis, dont nous n'avions pas besoin dans l'estomac, il va les prendre à notre cerveau. Vous voyez? Et le principe de régularité qui est ici exprimé en très peu de mots, c'est dont les princes mangent quand il est temps. Vous voyez le principe de régularité qui est exprimé et de tempérance dans la parole même de Dieu. La Bible dit « Heureux le pays dont le roi fait cela ». Dont le roi fait quoi? Dont le roi et les princes mangent quand il est temps. C'est-à-dire pas hors du temps. Parce que comme c'est écrit dans Ecclésias chapitre 3, à chaque chose, sa saison. À toute chose, sa saison. Et à chaque affaire sous les cieux, son temps. Vous voyez, même pour ce qui est de boire et de manger. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de confusion, quand il est écrit au verset 16, et dont les princes, malheur à toi pays, dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin, qu'est-ce que cela veut dire par manger dès le matin? Est-ce que cela veut dire c'est mauvais de manger le matin? Ce n'est pas ça le sens, c'est qu'est-ce que cela veut dire que eux mangent le matin? C'est que eux mangent, ils parlent de personnes qui se rassemblent pour manger et pour festoyer. Malheur à ce pays dont le roi est un enfant et dont ses princes mangent et festoient dès le matin, ils s'empiffrent, ils s'enivrent dès le matin. Alors que le matin est précisément ce moment, non, sans pour autant dire que cela serait bon pour eux de le faire le soir. Que ce soit le soir ou le matin, l'intempérance est mauvaise, mais le matin, c'est précisément le moment où nous avons le plus de force. Et ici, voici un pays dont les princes, c'est-à-dire dont les gouverneurs, dont les dirigeants, s'adonnent à l'intempérance dès le matin. C'est-à-dire, ils utilisent le matin pour festoyer plutôt que pour s'adonner à leurs responsabilités sérieuses. Et contredisent par leur mode de vie le principe de régularité inculqué par la nature. D'un autre côté, la Bible loue ceux qui mangent quand il est temps pour réparer leurs forces et non pour se livrer à la boisson, c'est-à-dire ceux qui mangent de manière régulière et sans excès. Donc voilà, nous avons lu la base de ce principe de tempérance et de régularité dans la parole de Dieu, mais maintenant nous voulons lire l'esprit de prophétie parce que c'est c'est vraiment l'objectif principal de cette étude, c'est que nous puissions être éclairés, non pas par mes propres paroles, mais par le témoignage de Jésus. Et donc, ce message aujourd'hui, c'est vraiment particulièrement une étude thématique sur la question de la régularité dans la tempérance. Et pour commencer cette étude systématique, j'aimerais me tourner et que nous nous tournions vers ce livre Avec Dieu chaque jour à la page 152 du paragraphe 3 au 6, au paragraphe 6. Nous nous penchons tout d'abord sur la régularité dans les heures du sommeil. La régularité dans les heures du sommeil. Il est écrit ceci. Comme elle est répandue, cette habitude de changer le jour en nuit et la nuit en jour. Que de jeunes gens dorment d'un profond sommeil le matin quand ils devraient être debout au chant joyeux des oiseaux et au travail quand toute la nature est éveillée. Qu'ils s'imposent une discipline et s'y conforment. Dieu est un Dieu d'ordre, et s'il requiert des jeunes une discipline, c'est pour qu'ils en retirent un avantage. Quelle est cette habitude qui est si répandue, qui était répandue du temps de Sir White, et qui sans doute est également répandue de nos jours, hein, parce que nous avons toujours affaire avec la même nature humaine pécheresse qui est enclin à faire précisément à l'inverse de ce que la nature enseigne. Même la nature l'enseigne. Qu'est-ce que la nature enseigne? C'est-à-dire que le matin, nous devrions être levés avec les oiseaux, être debout au chant joyeux des oiseaux. Donc, quelle est l'habitude qu'il nous faut apprendre à rectifier dans notre expérience en tant que chrétien? C'est l'habitude de changer le jour en nuit et la nuit en jour. C'est-à-dire d'utiliser la nuit pour faire ce que l'on devrait faire le jour et d'utiliser le jour pour faire ce qu'on devrait faire la nuit, c'est-à-dire dormir. Utiliser la nuit pour faire des choses que l'on aurait dû faire le jour et utiliser le jour pour faire ce qu'on devrait faire pendant la nuit. Je continue. Puisque le travail de construction et de réparation du corps se fait pendant les heures de repos, il est essentiel que la jeunesse, plus particulièrement, ait un sommeil régulier et abondant. Et j'irai même jusqu'à dire, et l'esprit de prophétie me confirmera dans mes dires, que non seulement pour la jeunesse, mais pour tous. Elle dit plus particulièrement pour la jeunesse parce que la jeunesse est en train de former sa constitution physique, mais c'est également le cas et c'est également nécessaire pour les moins jeunes et les plus âgés. Qu'est-ce qui est nécessaire? Que nous ayons un sommeil régulier et abondant. Pourquoi? Comme elle le disait au début, parce que le travail de construction et de réparation du corps humain se fait pendant les heures du repos. Donc, plus nous ôtons des heures du repos, ou plus nous cherchons à mettre des heures du repos là où nous devrions être éveillés, c'est-à-dire pendant le jour, et moins il y aura ce travail de construction et de réparation du corps. Moins ce travail-là aura lieu. Donc, plus nous traverserons une expérience de démolition de nos forces vitales. Pourquoi? Parce qu'il nous manque un sommeil régulier et abondant. Vous notez qu'il y a question d'un sommeil régulier et abondant, pas simplement d'un sommeil abondant ou pas simplement d'un sommeil régulier. Voyez, parce que si nous avons 8 heures de sommeil mais que nous les avons en plein dans le jour, il n'est pas régulier parce qu'il ne rentre pas dans la régularité que non seulement la nature, mais la parole nous enseigne. Vous voyez? Et sans parler de ce que l'esprit de prophétie nous enseigne vis-à-vis de cela. Je continue. La plupart des amateurs de plaisir assistent aux soirées mondaines et passent à des amusements énervants les heures que Dieu leur a données pour se reposer et dormir afin de recouvrer leurs forces. Ils effacent ainsi de leurs joues l'éclat de la santé et le remplacent par du fard, c'est-à-dire du fond de teint. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Les femmes ont beaucoup de fond de teint. Pourquoi? Pour pas qu'on voit tous ces gros cernes là, parce qu'on n'a pas de sommeil régulier et abondant. Les cernes, ils sont comme ça là. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fond de teint. Mais si nous dormions suffisamment et avec un sommeil régulier, on n'aurait pas besoin de remplacer l'éclat de notre santé qui est manquant par du fard, du fond de teint. Vous voyez? C'est important. C'est important. Nous sommes en train ici de parler de tempérance et de régularité. Ces deux choses-là sont liées. La tempérance dans c'est-à-dire la quantité de sommeil qu'on a. Des fois, on peut être tenté de dormir à outrance et à excès, mais ça ne va pas. Au-delà d'une certaine quantité d'heures, ce n'est plus de l'abondance, c'est de la léthargie et de la paresse. Et en dessous d'un certain nombre d'heures, nous parlons de 7-8 heures généralement, en dessous d'un nombre minimum d'heures, alors nous n'avons plus un sommeil abondant. Vous voyez, donc il s'agit de faire preuve de tempérance même dans les heures du sommeil. C'est important. Je lis le dernier paragraphe. Ne vaudrait-il pas mieux rompre avec cette habitude de changer la nuit en jour et les belles heures du matin en nuit? Si les jeunes avaient une conduite rangée, ils verraient s'améliorer leur santé, leur humeur, leur mémoire et leur caractère. Tout cela pourquoi? Tout cela en lien avec les heures du sommeil. Parce qu'elle parle, elle dit, si les jeunes gens avaient une conduite rangée, rangée comment? Rangée directement en lien avec ce qu'elle est en train de dire par rapport à l'habitude de changer la nuit en jour et les belles heures du matin en nuit. Elle dit, si les jeunes avaient une conduite rangée, les jeunes et les vieux, je vois des personnes âgées qui sont en train de m'écrire alors que c'est la nuit pour eux. Il est 2 heures du matin, ils sont en train de me répondre sur leur téléphone. Vous comprenez? Nous avons besoin de faire preuve de tempérance. Peu importe si quelqu'un m'appelle, peu importe, qu'il attende, faites-moi attendre, frère et sœur, faites-moi attendre. Nous sommes dans des créneaux horaires un peu décalés. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une raison. Nous avons besoin d'un sommeil régulier et abondant. Et moi, j'aurais tendance à dire, mettez vos téléphones en avion, éteignez vos téléphones. C'est la nuit c'est pour dormir, ce n'est pas pour discuter. Vous comprenez? Nous avons besoin de tempérance. Peu importe si quelqu'un vous appelle, qu'ils attendent, si quelqu'un est mort même, à qu'ils attendent. C'est mieux que vous dormiez, c'est mieux que nous dormions. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous allons rater? Rien. Rien. Si quelqu'un est mort, ils vont pas vous l'enterrer pendant que vous dormez. Ils vont attendre le lendemain. Le corps va attendre, même le corps, même Jésus. Quand on lui avait dit que Lazare était mort, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est resté 3 jours là où il était, avant de partir. Vous comprenez? Peu importe. La tempérance, un sommeil régulier, abondant. C'est important. Sir White nous parle d'un principe ici qui est complètement avachi et démoli par cette pratique de continuer à user de nos capacités de communication outre les heures qui devraient être consacrées à notre sommeil. Nous allons voir des heures précises qui sont données par l'esprit de prophétie au-delà desquelles nous ne devrions plus être élevés et affairé à diverses activités, que ce soit mentale ou simplement sociale. C'est important. Ne vaudrait-il pas mieux rompre avec cette habitude de changer la nuit en jour et les belles heures du matin en nuit? Vous me direz peut-être, non, mais mon frère, moi, je suis toujours levé le matin. Oui, mais si nous nous levons strictement et régulièrement le matin, mais que notre nuit est passée ici et là, à nous lever, à nous réveiller pour parler à cette personne, ça détruit notre santé. Je suis juste en train d'utiliser de bons raisonnements ici. Si les jeunes, et même les personnes âgées, moins jeunes, plus âgées, beaucoup âgées, peu importe leur âge en fait. Parce que de nos jours, ça touche tout le monde. Dès que vous avez un téléphone comme ça, un vini en votre possession, il y a tout qui est déréglé après. Tout qui est déréglé après. Sans besoin de laisser la chose par terre. Laissez les gens attendre. Laissez les gens attendre. La tempérance est plus importante. La tempérance est plus importante. La tempérance et la régularité, c'est plus important que quelqu'un qui est en train de m'appeler, il a envie de me dire quelque chose tout de suite. Peu importe, laissez-le attendre. Laissez-le attendre, qu'il attende. Que moi, faites-moi attendre. Oubliez-moi. Ignorez-moi. Si quelqu'un vous appelle, quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort, peu importe qu'il attende. Il va attendre, ils vont pas l'enterrer tout de suite. Comprenez? Tempérance et régularité, nous avons besoin. Même moi, j'ai besoin, frères et sœurs. Des fois, les personnes m'appellent, ils me disent, da, 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 da. C'est plus l'heure, il faut que je me couche, il faut que je lise la parole de Dieu, les personnes sont en train de m'appeler, peu importe. Éteignez tout, déconnectez. Tempérance et régularité, peu importe. Si quelqu'un vous appelle, c'est plus le moment, et ben, il attendra. Mais moi, j'ai besoin de pratiquer ça sans arrêt. C'est facile de glisser en disant, nous disons, Seigneur, c'est pour l'œuvre de Dieu, maintenant je vais me coucher jusqu'à 11h, 12h, 11h, minuit, 1h, 2h, 3h, c'est pour l'œuvre de Dieu, Seigneur. Non, ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est d'être tempérant. L'œuvre de Dieu, c'est avant tout de faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Nous avons lu ici. Faire preuve de tempérance, avoir un sommeil régulier et abondant. Pas juste abondant, pas juste régulier. Si je suis régulier en me couchant à minuit, je suis régulier mon frère. Moi je me couche tous les jours à minuit, je me lève tous les jours à 5 heures, je suis très régulier. Mais ce n'est pas abondant. Ce n'est pas abondant. Ce n'est pas la tempérance et la régularité. Il n'y a rien de là-dedans. Et si par mégarde, par égarement, nous avons eu des excès, et nous revenons de notre égarement et nous disons, Seigneur, désolé, je me suis vraiment laissé égarer. Le Seigneur, dans sa miséricorde, pardonnera nos péchés. Quand nous lisons dans la parole de Dieu qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Pas juste les pardonner, mais ensuite les purifier. Comment va-t-il les purifier? En nous inculquant des principes selon lesquels nous pouvons et nous allons vivre qui sont différents de la manière selon laquelle nous avons vécu et qui nous a valu tant d'une perte de notre santé, de notre bonne humeur, de notre douceur, de notre vitalité, de notre mémoire, de notre caractère. Tempérance et régularité. Laissez les personnes attendre. Laissez les personnes, laissez les choses en suspens. Si tant est que nous pouvons avoir du sommeil abondant et régulier. Je poursuis, frères et sœurs, je poursuis. Dans la citation suivante, qui se trouve dans Child Guidance, à la page 363 et au paragraphe 2, nous continuons de développer cette question du sommeil. Pas seulement du sommeil, maintenant aussi du repas. Je lis. Il ne faut pas négliger l'importance de la régularité des horaires pour les repas et le sommeil. Les heures du repos sont des heures où le corps se bâtit et il est essentiel, pour les jeunes en particulier, de dormir régulièrement et suffisamment. Elle n'a pas dit pour les jeunes exclusivement. Elle n'a pas dit pour les jeunes exclusivement. Elle a dit pour les jeunes en particulier, parce que ce sont tout particulièrement eux qui ont besoin de former des bonnes habitudes. Mais c'est possible, frères et sœurs, que nous sommes là, nous avons 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et nous avons formé des habitudes qui sont complètement à des kilomètres de la tempérance et la régularité selon la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est pour ça que je dis, faites attention. Il y a marqué pour les jeunes en particulier. Mais si nous avons formé des habitudes qui sont précisément celles que les jeunes sont ici avertis de ne pas former, eh bien nous sommes également inclus dans ce conseil du Seigneur. Quel est ce conseil? Je le relis. Les heures du repos sont des heures où le corps se bâtit et il est essentiel, pour les jeunes en particulier, de dormir régulièrement et suffisamment. Donc qu'est-ce qu'il est important de ne pas négliger? Je le relis au début, l'importance de la régularité des horaires pour les repas et le sommeil. Y a-t-il des horaires pour le repas et le sommeil qu'il est important pour nous de ne pas négliger, mais qu'il est important également pour nous de pratiquer et selon lequel il nous faut vivre et qu'il nous faut suivre? C'est important ici. Et nous allons pouvoir répondre à cette question, cette interrogation, par le moyen des déclarations suivantes, notamment celles qui se trouvent dans Conseil aux éducateurs, parents et élèves, je crois, c'est ça. Conseil aux éducateurs, parents et élèves, à la page 239, paragraphe 2. Il est écrit ceci. Ne pas négliger l'importance de la régularité des horaires pour les repas et le sommeil. Et donc, est-ce que ça veut dire que la régularité, ce sont avoir des oreilles et s'y tenir, des horaires et s'y tenir, ou y a-t-il des horaires qui nous sont déjà fournis? Ça qui est important. Regardons-le. Je lis, on ne devrait pas choisir au hasard les heures de sommeil. On ne devrait pas choisir au hasard les heures du sommeil. Donc ce n'est pas à nous de choisir les heures de sommeil. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu les a déjà choisies pour nous. Et voyons lesquelles il nous recommande. Et lesquelles il nous enjoint. Quelles sont ces heures de sommeil? Nous le lisons à la fin de la citation, mais je poursuis. On ne devrait pas choisir au hasard les heures de sommeil. Les étudiants ne doivent pas prendre l'habitude de travailler jusqu'à minuit et de dormir pendant la journée. Les étudiants? Pas que les étudiants. Pas que les étudiants. Je connais maintes chrétiens qui sont levés jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Maintes chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Ça m'est arrivé par le passé. Mais ce n'est pas un exemple que je cherche à donner. Ce n'est pas un exemple que je m'en repens. Je m'en repens. Les étudiants ne doivent pas, les étudiants et toutes les personnes qui font la même chose, ne doivent pas prendre l'habitude de travailler jusqu'à minuit et de dormir pendant la journée. S'ils ont été habitués à faire cela chez eux, ils doivent corriger cette habitude en allant se coucher à une heure raisonnable. Ils se lèveront alors le matin, prêts à accomplir les tâches de la journée. Et maintenant, notez bien. Dans nos écoles, il faudrait éteindre les lumières à 9h30. Quoi? Parce qu'au début, il est écrit, on ne devrait pas choisir au hasard les heures du sommeil. Donc, si on ne doit pas les choisir au hasard, ça veut dire qu'elles ont déjà été choisies pour nous. Et quelles sont les heures de sommeil qui ont déjà été choisies pour nous, c'est-à-dire pour le peuple de Dieu, selon les conseils du Seigneur? Je le lis ici, elle l'exprime dans la règle qu'elle stipule pour le règlement des écoles qui fonctionnaient du temps de Sir White dans le cadre du message du troisième ange. Quelle était l'ordonnance? Dans nos écoles, disait-elle, il faudrait éteindre les lumières à 9h30. 21h30. Voilà les bonnes horaires de sommeil. On ne devrait pas... Quelle est l'heure raisonnable à laquelle il nous faut nous coucher? celle qu'elle a stipulée pour l'extinction des lumières dans l'école. 9h30. On ne devrait pas, frères et sœurs, aller au-delà de manière systématique de cet horaire-là qui nous est donné par Dieu. Ce n'est pas un ordre aléatoire et sans raison, c'est parce que même les articles scientifiques vous diront que les meilleurs horaires pour dormir, c'est entre 22h et, si je ne m'abuse, 3h du matin, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. C'est les meilleurs horaires pour dormir, pourquoi? Pour recouvrer les forces, pour la reconstruction de notre corps. Je poursuis par rapport à la régularité dans les heures des repas maintenant. Nous avons vu la question du sommeil et maintenant nous nous penchons sur la question de la régularité dans les heures des repas. Pour cela, je me tourne vers ce passage de conseils sur la nutrition et les aliments à la page 213 et au paragraphe 1 et 2. Où il est écrit ceci. Il est d'une importance capitale de prendre les repas à des heures régulières. Le repas terminé, on ne doit plus rien prendre jusqu'au suivant. Beaucoup mangent lorsque leur organisme n'a pas besoin de nourriture, à des intervalles irréguliers ou entre les repas, parce qu'ils n'ont pas la force de volonté suffisante pour résister à cette inclination. Certaines personnes, lorsqu'elles voyagent, grignotent constamment quelque nourriture, ce qui est très préjudiciable à leur santé. Si, au contraire, elles prenaient régulièrement des aliments simples et nourrissants, elles ne se sentiraient pas si lasses et seraient moins souvent malades. Quel est le conseil? Il est d'une importance capitale de prendre les repas à des heures régulières. Voilà cette question de régularité que nous allons explorer davantage. Et une fois le repas terminé, on ne devrait plus rien prendre jusqu'au suivant. C'est-à-dire que on ne devrait pas manger entre les repas. C'est intéressant parce que quand j'étais jeune, on m'apprenait cela. Mais ensuite, ceux qui m'apprenaient cela, ils ont commencé à faire ce qu'ils m'avaient dit de ne pas faire. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin d'un ainsi dit l'Éternel. Parce que si c'est juste nous qui disons cela selon notre propre opinion, ça, c'est bien aujourd'hui, et puis quand nous changeons d'avis, nous changeons notre pratique, nous changeons notre habitude. Parce que nous nous disons, en fait, c'était juste une tradition. Et là, si vous voyez bien, ce n'est pas une tradition humaine. C'est vraiment une stipulation de l'esprit de prophétie qui d'ailleurs est dont la raison peut être vérifiée à travers des études scientifiques qui montrent bel et bien, si vous choisissez les bonnes, que ce n'est pas dans l'avantage de notre santé de manger entre les repas. Pourquoi? Parce que les sucs gastriques viennent à certains moments. Et si nous apprenons à notre corps à revenir sur ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire cette régularité-là que l'esprit de prophétie nous enseigne ici, eh bien alors tout fonctionnera comme un organisme bien ordonné. Si nous prenons les repas à des heures régulières et si nous nous abstenons de manger entre les repas. Parce que grignoter constamment entre les repas, c'est comme je le lisais ici, très préjudiciable à la santé. Très préjudiciable à notre santé. Je continue. On doit manger à intervalles réguliers et ne rien prendre entre les repas, ni pâtisserie, ni fruits, ni nourriture d'aucune sorte. L'irrégularité est préjudiciable au bon fonctionnement des organes digestifs et altère la santé et la bonne humeur. En outre, les enfants se mettent à table sans appétit pour les aliments sains et manifestent des préférences pour ce qui leur fait du mal. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que les enfants, ils sont tout le temps en train de vouloir « je veux cela, je veux manger cela » et ensuite vous leur donnez, entre les repas bien sûr, Et ensuite, quand le temps est venu du repas, ils n'ont plus faim. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps, on leur donne tout le temps des choses à grignoter parce que on ne veut pas vraiment les éduquer. On veut juste les taire. Et donc, on leur met quelque chose dans la bouche. Tiens, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Et après, nous disons, je ne comprends pas, mon enfant, il est impatient, il est hyperactif. Ben oui, mais ce n'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Pourquoi est-il comme ça? Pourquoi? Mais parce que on lui inculque pas la régularité et la tempérance. Qui inculque de nos jours la régularité et la tempérance à nos enfants? À ses enfants. C'est pas une surprise. Si nous voulons que nos enfants soient disciplinés, ça commence là. La tempérance et la régularité. Vous me direz, oui, mais non, non, il est trop jeune pour cela. Ben, il sera trop jeune pour être sanctifié alors. Je poursuis. Dans conseil, encore une fois, hein, conseil sur la nutrition et les aliments, à la page 212 et au paragraphe 4, il est écrit, après un repas habituel, l'estomac devrait pouvoir se reposer pendant 5 heures. Ah, vous voyez, les horaires du repas sont donnés également. Elles ne sont pas laissées à notre imagination. Après un repas habituel, l'estomac devrait pouvoir se reposer pendant 5 heures. Aucune parcelle de nourriture ne devrait y être introduite jusqu'au repas suivant. Durant cet intervalle, l'estomac peut normalement accomplir son travail et se préparer à recevoir à nouveau des aliments. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, pendant cette période-là, ces 5 heures qui sont données par l'esprit de prophétie, et qui fonctionne très bien pour un régime non carné, parce que des fois, les personnes peuvent manger de la chair, mais ça peut prendre énormément de temps pour le corps de digérer, pardon, cette nourriture carnée. Donc, ces 5 heures-là, elles permettent à l'estomac à la fois d'accomplir son travail de digestion et il lui permet également de reproduire les sucs digestifs pour recevoir le repas suivant. Et cette période de 5 heures est celle que l'esprit de prophétie nous stipule comme devant à chaque fois séparer nos repas sans être interrompu par des grignotages. Parce que si vous grignotez entre les repas, et donc le suc gastrique, pardon, qui était en train de recomposer, pour ainsi dire, hein, eh bien il va être dilué, il va être mis à l'action pour pouvoir agir sur ces choses que vous avez mis dans l'estomac. Et donc, quand vous arrivez aux 5 heures, il n'a pas eu le temps de se reconstituer dans l'estomac. Et donc, il n'est pas prêt. Et donc, ça fatigue le corps et l'esprit, parce que tout cela est lié. Donc, nous avons lu, hein. Nous devons manger à intervalles réguliers, et ne rien prendre entre les repas. Et ensuite, on lisait que l'estomac devrait pouvoir se reposer pendant 5 heures. Et ces intervalles réguliers, donc, si vous calculez, par exemple, vous mangez, je sais pas, à 7 heures du matin, ensuite vous avez votre repas du midi, à peu près, à midi. Et ensuite, vous calculez 5 heures après cela, ça peut être 17 heures, 18 heures, parce que vous allez voir que l'esprit de prophétie, il nous dit 5-6 heures, dans une autre citation que je vais lire maintenant. Les repas ne devraient en aucun cas être pris irrégulièrement. Si le déjeuner est absorbé 1 heure ou 2 avant le moment habituel, l'estomac n'est pas prêt à recevoir un nouveau repas, car il n'a pas terminé la digestion des aliments absorbés au repas précédent, et il n'a pas de force à dépenser pour un nouvel effort, ainsi le système digestif est surchargé. Les repas ne doivent pas non plus être pris 1 ou 2 heures après le moment habituel. Donc, ces 5 heures, elles devraient pas être réduites, c'est-à-dire à 4, mais elles ne devraient pas être trop allongées, c'est-à-dire au-delà de 6, 7, 8, entre chaque repas. Hein, je le lis pourquoi. Les repas ne doivent pas non plus être pris une ou deux heures après le moment habituel en raison de circonstances spéciales ou pour suivre un certain programme de travail. L'estomac demande la nourriture au moment où il a l'habitude de la recevoir. Si ce moment est dépassé, la vitalité du système digestif décroît et descend à un niveau si bas que l'appétit s'en va. Si l'on mange à cette heure-là, hein, c'est-à-dire une ou deux heures après le moment où nous avons l'habitude d'avoir notre repas, si l'on mange à cette heure-là, l'estomac ne peut normalement digérer cette nourriture qui, de ce fait, ne peut être transformée en sang de qualité. La nourriture, elle est censée être transformée en sang, mais si nous mangeons notre repas bien trop tard, bien après notre horaire régulier, eh bien, cette nourriture ne pourra généralement pas être transformé en sang de qualité par le système digestif. Pourquoi ? Parce que le système digestif attendait le repas à 7 heures, mais il a dû attendre 2 heures plus tard, et selon ce qui est écrit ici, ça ne va pas pouvoir être transformé en du bon sang, comme c'est écrit littéralement. Good blood, en sang de qualité. Si tous s'efforçaient de manger à des moments réguliers, sans prendre aucune nourriture entre les repas, il se trouverait préparé aux heures des repas et éprouverait à manger un plaisir qui les récompenserait de leurs efforts. Je poursuis dans le livre Tempérance chrétienne à la page 80 et au paragraphe 1 et 2. Là, c'est par rapport aux enfants. C'est important hein, parce que on se dit bon voilà, ça c'est juste pour nous les enfants. Je lis. Les habitudes des enfants doivent être bien réglées. Les mères commettent une grande erreur en leur permettant de manger à chaque instant entre les repas. Cette habitude dérange l'estomac et cultive le germe de maladies futures. Très souvent les enfants sont grincheux et agité par une digestion laborieuse. La mère, qui ne prend pas le temps de réfléchir, administrera alors une correction à son enfant ou lui fermera la bouche avec une friandise quelconque, mais ces expédients ne font qu'aggraver le mal. Certaines mères, anxieuses de faire le plus de travail possible, deviennent énervées et plus irritables que leurs enfants. Elles les grondent et les frappent même pour les tranquilliser par la crainte. Vous entendrez des mères se plaindre de la santé délicate de leurs enfants, elles courent au médecin, tandis que, avec un peu de réflexion, elles auraient pu voir que le mal provenait d'erreurs d'alimentation. Nous vivons dans un âge de gloutonnerie et la jeunesse est élevée, même parmi les adventistes du septième jour, dans des habitudes diamétralement opposées aux lois naturelles. Donc pour les parents, cela montre la nécessité d'amener même les enfants dans la pratique de la tempérance et de la régularité, sans quoi ils se retrouveront avec quoi ? Des enfants grincheux et agités par une digestion laborieuse et qui n'ont plus une quelque once de maîtrise d'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur a pas inculqué la tempérance. Comment ? En leur interdisant, en leur enseignant qu'il n'est pas bon de manger entre les repas et en leur apprenant, comme à nous, par le Seigneur, à avoir des horaires réguliers pour les repas, ainsi que pour les horaires du sommeil. Voilà, maintenant je poursuis par rapport au repas du soir. Très tardif, par rapport au repas du soir très tardif, quand nous mangeons le soir très tardivement, et j'aimerais lire pour cela cette déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Ministère de la guérison à la page 257 et au premier paragraphe, paragraphe 1 et 2. Une autre habitude néfaste consiste à manger au moment de se coucher, après les repas habituels. Alors, donc là, il est question d'un espèce de quatrième repas. Parce qu'elle dit après les repas habituels, c'est-à-dire un grignotage, mais juste avant de se coucher. D'où vient ce sentiment de nécessité? On ressent alors une certaine faiblesse et on prend encore quelques nourritures. En s'écoutant ainsi, on contracte une habitude devenant si invétérée qu'il semble impossible de s'endormir sans avoir mangé. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais dans ce cas-là, où la personne a pris l'habitude de manger le soir parce qu'elle sent si faible, eh bien, cela est le résultat d'avoir enseigné à son corps qu'elle a besoin de cela. Donc c'est possible de conditionner notre corps humain d'une telle manière que notre corps lui-même croit qu'il a besoin de quelque chose qui en réalité est contre sa nature originelle et son besoin réel. Vous voyez? C'est possible d'enseigner à notre corps. Ça rejoint ce que nous avions vu par rapport à la réforme vestimentaire où je vous avais dit, et nous avions vu hein, à travers ce qui est écrit, que c'est possible pour nous de nous sentir tellement mal à l'aise d'être complètement revêtu, non pas parce que c'est mauvais en soi, mais parce que notre corps a été tellement conditionné à se balader les jambes et les bras à l'air que le fait même de les couvrir, même s'il fait à peine un peu trop chaud, nous rend complètement mal à l'aise. Pourquoi? Pas parce que c'est mauvais en soi, mais parce que notre corps est complètement déréglé par des pratiques erronées. On va dire ça comme ça. Donc je poursuis cette citation pardon de l'esprit de prophétie. Elle dit cela. Maintenant, elle a donné l'exemple et elle explique cela. L'esprit de prophétie, témoignage de Jésus, nous dit cela. Le résultat de ces repas tardifs est que la digestion a lieu pendant le sommeil et que celui-ci, le sommeil, est souvent troublé par des cauchemars. Au matin, on s'éveille fatigué et sans appétit pour le déjeuner. Il faut que le travail de l'estomac soit terminé quand on se couche, car cet organe doit se reposer comme tout le reste du corps. Hein, donc vous voyez, nous mangeons le soir parce que nous avons formé cette habitude, nous avons enseigné à notre corps que nous en avons besoin, parce que au début c'était une tentation, et ensuite c'est devenu un mécanisme physiologique auquel nous avons conditionné notre corps, de sorte que le corps lui-même nous fait ressentir par le système nerveux que nous avons ce besoin. Et ensuite le diable il saupoudre quelques tentations et ça c'est la grande explosion d'une mauvaise habitude qui est poursuite. Et ensuite, nous avons ce sommeil troublé. Pourquoi? Parce que le corps est affairé à digérer tout ce qu'il n'a pas pu digérer pendant que nous étions levés, parce que nous avons juste mis ce chargement, cette responsabilité sur l'estomac juste avant de se coucher. Et donc, notre nuit, pour une grande partie de notre nuit, est consacrée à ce travail de digestion par l'estomac. Et ensuite, nous nous réveillons, nous sommes tout pleins de courbatures, nous n'avons pas le sentiment d'avoir été soulagés par le sommeil, c'était juste un moment désagréable. Et nous nous levons et nous ne sommes pas rafraîchis. Tout ça à cause de cette pratique mal choisie et déréglée des repas tardifs. Que ce soit des repas tardifs en soi, hein, ça peut être le repas qui a été tellement repoussé, hein, tellement éloigné du repas de midi que il est placé pile au moment où on devrait être, où notre digestion devrait être terminée. Je me souviens, parce que bon, j'ai vécu dans ces cercles, hein, c'était pratique courante, je pense qu'on dit, monnaie courante, c'était une pratique commune dans notre famille on mange par exemple à 13, 14 heures, ensuite on attend jusqu'à 21h, 22h, et là on mange. Et ensuite, ben, vous venez de manger, donc manger c'est fait pour quoi? C'est pour avoir de l'énergie. Donc vous avez plein d'énergie, sauf que vous devriez être en train de dormir, et donc il faut pousser l'heure du sommeil, parce que vous avez plein d'énergie, vous allez en faire quoi? Donc vous allez attendre d'être un peu fatigué, donc je sais pas, 23h, minuit, 1h. Mais bon, si vous avez une certaine conscience, un semblant de conscience, vous allez vous dire, bon, maintenant, il est un peu tard, je viens de manger, mais il est un peu tard quand même. Donc, je vais me coucher. Mais bon, vous venez de manger. Donc, vous n'avez pas vraiment sommeil et votre estomac, il est en train de faire tout son travail. Vous allez vous coucher et en fait, vous tournez gauche et droite. Vous ne pouvez pas dormir. Pourquoi? Parce que l'estomac, il est actif. L'estomac, il dit, mais moi, la journée n'est pas terminée pour moi. Moi, tu m'as mis quelque chose, la journée n'est pas terminée. Faut que je termine le travail. Et après, on ira dormir. Et donc, vous êtes là, vous allongez, vous dites, Seigneur, j'arrive pas à dormir. Mais pourquoi? Pourquoi? Voilà. Voilà pourquoi. Et c'est également pour ça que l'esprit de prophétie, comme nous allons le voir, nous enseigne, nous inculque que si nous prenons un troisième repas, c'est-à-dire le repas du soir, il est préférable que ce repas soit constitué de choses comme des fruits et du pain. L'esprit de prophétie dit des fruits et du pain. Alors moi, je mange parfois parce que je suis pas sédentaire, mais je travaille de manière physique. Je mange parfois aussi des graines, mais elle stipule précisément de ne pas consommer de légumes ou de légumineuses le soir, parce que cela demande une plus longue digestion et les choses qui se digèrent plus facilement, c'est les choses telles que le pain et les fruits. Ça se digère plus facilement et ça permet de ne pas traverser ces moments désagréables d'un sommeil qui est tellement perturbé à cause d'un système digestif qui a été chargé par quelque chose si tardivement. Je le disais, il faut que le travail de l'estomac soit terminé quand on se couche, car cet organe doit se reposer comme tout le reste du corps. Les soupers pris tard dans la nuit sont particulièrement nuisibles aux personnes sédentaires. Les troubles qu'ils engendrent, que c'est souper tardif engendre, sont souvent à l'origine d'une maladie mortelle. Même, ça peut être même à l'origine d'une maladie mortelle. Et si l'esprit de prophétie a ajouté un élément important? Parce que, vous voyez, c'est possible pour des personnes qui sont actives physiquement actives dans leur profession ou dans leur activité personnelle, c'est possible pour ces personnes-là, je ne dis pas que c'est bon, mais c'est possible que ces personnes-là prennent des soupers tardifs et que malgré cela, elles arrivent à ne pas avoir des nuits si troublées. Pourquoi? Parce que elles ont une plus grande facilité à dormir parce que la fatigue corporelle l'emporte sur l'activité supplémentaire qui est tombée à la mauvaise heure, qui a été placée sur l'estomac. Vous voyez? Mais si pour les personnes sédentaires, c'est-à-dire qui ont une activité sédentaire qui est en intérieur et qui n'est pas physique, hein, que je sais pas du secrétariat ou des choses beaucoup moins physiques, eh bien ces personnes-là, pour elles, les soupers, pris tard dans la nuit sont particulièrement nuisibles. Particulièrement nuisibles, parce que leur sommeil est d'autant plus fragile qu'elles ont eu moins d'activité physique pour les rendre fatiguées. Vous voyez? Donc si en plus de cela, ces personnes-là, dont l'activité est sédentaire, se fourvoient par des soupers tardifs, c'est-à-dire des repas pris tard le soir, eh bien, leur sommeil va être complètement, comment dire, amoindri, complètement troublé. Et ça va influer sur leur santé, sur notre santé. Je continue. Dans bien des cas, la faiblesse qui provoque le désir de manger avant de se coucher provient de ce que les organes digestifs ont été surmenés pendant la journée. Ensuite, après avoir digéré un repas, ils ont besoin de repos. 5 ou 6 heures au moins. 5, excusez-moi, 5, je vais le retrouver. 5 ou 6 heures au moins devraient s'écouler entre les repas. 5 ou 6 heures au moins. Vous voyez? Devraient s'écouler entre les repas. D'ailleurs, bien des personnes, après en avoir fait l'essai, trouvent que 2 repas par jour valent mieux que 3. Et là, nous touchons un éclaircissement par rapport au nombre de repas. Hein, elle dit que 5 ou 6 heures au moins devraient s'écouler entre les repas et que pour les personnes comme nous allons le voir après, certaines personnes trouvent que deux repas par jour valent mieux que trois. Oui. Donc, pour certaines personnes, deux repas par jour valent mieux que trois. Et quelles sont ces personnes-là pour lesquelles deux repas par jour valent mieux que trois repas par jour? Notez bien. Cette réponse, nous la trouvons dans l'esprit de prophétie, encore une fois, dans le livre Conseil à l'Église, à la page 181 et au paragraphe 8 et 9, où il est écrit ceci. La méthode de prendre deux repas par jour, c'est-à-dire le petit déjeuner et le repas du midi, sans le repas du soir, la méthode de prendre deux repas par jour est généralement favorable à la santé. Cependant, certaines personnes ont besoin d'un troisième repas. Celui-ci devrait être très léger et se constituer de nourriture qu'on peut le plus facilement digérer. Je lis le paragraphe suivant. Quand les étudiants combinent l'activité physique et mentale, c'est approprié de consommer un troisième repas. Dans ce cas, on doit le préparer sans légumes, mais avec une nourriture simple et saine, comme des fruits et du pain. Elle n'a pas dit avec des fruits et du pain, mais comme, par exemple, des fruits et du pain. Mais elle précise de préparer ce repas sans légumes. Pourquoi? Par rapport au temps de digestion qui est impliqué par la consommation des légumes. Donc vous voyez, elle nous dit que les personnes qui ont une activité sédentaire, comme on le conclut en lisant le paragraphe de Mystère de la guérison, page 255 et paragraphe 1, les personnes qui ont une activité sédentaire, pour ces personnes-là, la méthode de prendre deux repas par jour est favorable à la santé. Pourquoi? Parce que, en réalité, souvent, le troisième repas sera superficiel et pourra même représenter un fardeau pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas vraiment eu une activité physique intense et donc elles n'ont pas réellement épuisé leur force vitale de telle sorte qu'elles ont besoin de les réapprovisionner par un troisième repas. Par contre, c'est le cas de ces personnes-là qui sont exprimées ici au paragraphe 9, ces personnes-là qui combinent l'activité physique et mentale, ou qui ont une activité purement physique et peu mentale, ces personnes-là auront besoin d'un troisième repas parce qu'elles ont passé l'après-midi, elles ont consacré leur après-midi à une activité physique qui leur a coûté des forces, qu'ils ont besoin de combler par ce troisième repas. Vous voyez? Et tout ça se ressent, de toute manière, ça se ressent. Et par exemple, moi, pour un exemple, pour qu'on puisse comprendre le principe, quand je suis affairé à une activité sédentaire, purement mentale, que je ne suis pas dehors, que je fais des travaux de traduction, par exemple, le troisième repas, je le trouve souvent pas vraiment nécessaire. Ou des fois, je le prends selon la quantité d'activité que j'ai eue, parce que des fois, l'activité très mentale va aussi user de vos forces. Mais si c'est une activité mentale peu poussée, souvent, en fait, vous arrivez au troisième repas et si vraiment nous examinons la qualité de notre discernement avant et après le troisième repas, si nous sommes dans des activités sédentaires, nous en arriverons à la conclusion que le troisième repas peut être sauté. Dans ces circonstances-là, alors seulement on peut s'abstenir du troisième repas, mais on ne devrait pas créer une règle stricte pour dire vous ne devez pas manger le troisième repas. Et d'autant plus, comme le frère John a l'habitude de le dire, d'autant plus aujourd'hui où la teneur en nutriments des fruits et des légumes et de toutes les nourritures qui sont disponibles de nos jours à l'achat et a été grandement amoindrie dans la nourriture de telle sorte qu'il nous faut souvent plus en quantité qu'il en fallait par le passé à cause de cette diminution de la valeur nutritionnelle des aliments dans ces derniers jours. Pour cette raison-là, c'est ce que j'ai souvent entendu, c'est recommandé, plus recommandé, le troisième repas est plus recommandé de nos jours qu'il l'était du temps de Sir White. Parce qu'il y a beaucoup moins de nutriments et que les aliments ont beaucoup une valeur nutritionnelle beaucoup plus inférieure que par le passé. Donc voilà, ça c'était pour le troisième repas. Et maintenant, j'aimerais que nous nous concentrions sur la tempérance et l'équilibre entre l'activité mentale et physique pour conclure notre méditation. Pour cela, j'aimerais lire, nous tourner vers le passage de Avec Dieu chaque jour à la page 153 et au paragraphe 2 et 5, à 5. Le travail intellectuel qui n'est pas compensé par un exercice physique correspond dans par un exercice physique correspondant fait un appel disproportionné de sang au cerveau, déséquilibrant ainsi la circulation. Le cerveau a trop de sang alors que les extrémités du corps en ont insuffisamment. Il faut régler soigneusement les heures d'étude et de récréation et réserver une partie du temps à l'exercice physique. Donc, voilà également un aspect de la pratique de la tempérance et de la régularité, pardon. Qu'est-ce que c'est? Il nous faut régler soigneusement les heures d'étude et de récréation et combiner le travail intellectuel à l'exercice physique. Parce que si celui-ci, le travail intellectuel, n'est pas compensé par un exercice physique correspondant, cela va faire un appel disproportionné de sang au cerveau et déséquilibrer la circulation du sang dans le corps, dans notre corps, dans nos corps. Vous voyez donc, la pratique de la tempérance et de la régularité, c'est également de combiner de manière équilibrer notre travail intellectuel avec notre travail physique. Vous voyez? C'est-à-dire ne pas simplement être purement sédentaire en ce que nous restons constamment dans la maison et nous ne faisons pas réellement d'activité physique en plein air. L'activité physique, ça peut être fait en intérieur, mais c'est beaucoup plus favorable à la santé si nous la trouvons et nous l'avons et nous la faisons en extérieur. Et c'est encore mieux si cette activité physique en extérieur est d'ordre pratique, c'est-à-dire utile, comme par exemple du travail dans un potager. Si nous avons le privilège d'avoir accès à un potager, cela sera beaucoup plus favorable à notre santé de joindre notre travail intellectuel à ce genre d'activité physique-là que simplement d'aller courir ou de faire, vous savez, ces choses typiquement gymnastiquienne, ces pratiques communes comme courir ou faire des exercices physiques entre quatre murs, ça sera beaucoup plus favorable à notre santé si nous nous adonnons à une tâche qui a une utilité. Pas juste de nous faire avoir une activité physique, mais d'avoir une activité physique qui a un sens. Ça va joindre notre santé physique et mentale et morale. C'est important de pouvoir lier tout cela. Je poursuis. On ne peut pas conserver une bonne santé si on ne passe pas un instant de la journée à faire travailler ses muscles en plein air. Des heures fixes doivent être consacrées aux travaux manuels qui mettront en activité toutes les parties de notre corps, équilibrons la participation de nos facultés physiques et mentales et notre esprit en sera recréé. Vous voyez ce que je disais? Et si nous équilibrons la participation de nos facultés physiques et mentales, si nous combinons tout cela, pas simplement mental, mais aussi physique, pas simplement physique, mais aussi mental, alors notre esprit en sera recréé. Vous voyez? C'est notre esprit cela va avoir une influence, cette équilibre et cette régularité de nos activités sur notre esprit. Je continue. La pensée des intellectuels est soumise à une trop grande activité. Ceux-ci font un usage immodéré de leurs facultés mentales pendant qu'une autre catégorie de gens n'a pour seul but que le travail physique. Vous savez, dans le BTP, ils ne font que ça, quoi. Ils ne font que ça. Ils ne pensent pas. Ils font beaucoup de travail intense. Parfois du travail un peu de forcené. Et ils sont fiers de ce qu'ils font. Mais ils ont souvent peu de réflexion, peu de réelle réflexion mentale et intellectuelle. Et puis d'autre côté, il y a ces intellectuels qui ne font que du travail intellectuel. Ils ne font que penser. Et on leur montre un jardin, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas qu'est-ce qui est quoi. Ils ne reconnaissent pas la moindre des petites plantes. J'étais comme ça. Hein. Je suis né dans la capitale. Je connais. Et donc, l'esprit de prophétie nous dit que ni l'un ni l'autre n'est un bon exemple. Il nous faut un équilibre, il nous faut marier tout cela, marier l'activité intellectuelle à l'activité physique pour qu'il y ait une harmonie dans notre corps et que notre esprit ne soit pas affaibli par ce déséquilibre ou mental ou physique. Oui. Ces gens-là, ceux qui n'ont pour seul but que le travail physique, ces gens-là n'exercent pas leur esprit. Leurs muscles travaillent, mais leur cerveau est frustré de toute richesse intellectuelle. De même que, faute d'exercice musculaire, les intellectuels font travailler leur esprit en frustrant leur corps de sa force et de sa vigueur. Ensuite, elle dit, la santé devrait être un mobile suffisant pour les pousser à allier le travail physique et le travail mental. Hein? Donc des fois, on peut être tenté de, si on est très poussé à rester entre quatre murs, on peut être tenté de ne pas sortir, parce que plus on reste entre quatre murs, moins on a envie de sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut que la santé et notre désir de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, et que notre corps soit réellement un temple pour le Saint-Esprit, ceci devrait être un mobile pour nous de sortir et de s'adonner à quelque activité physique. Et au moins de marcher en plein air. Au moins de marcher en plein air. C'est très important. Pour que notre esprit soit recréé à la vue des choses que Dieu fait, plutôt qu'à la vue de ce que l'homme fait. Hein, parce que vous êtes entre quatre murs, vous ne voyez que ce que l'homme fait. Sauf en regardant à travers la fenêtre. Si vous avez le privilège d'avoir la nature devant vous à travers vos ouvertures. Mais sinon, ce n'est que la création de l'homme. Donc nous avons besoin de nous ressourcer en allant là où nous voyons ce que Dieu fait exclusivement. Hein? Vous voyez les nuages, Dieu, l'homme ne les a pas faits. L'homme n'a rien à voir avec les nuages. Non, il n'a pas de contrôle. Il influe un peu sur la météorologie, on doit en convenir. Mais ultimement, ça ne l'appartient pas à l'homme, et donc ça élève nos pensées à quelque chose de supérieur. Et nous avons besoin de cela pour que notre esprit soit recréé, de sortir de quatre murs de parpaing, et de béton et d'acier. Je continue. On devrait harmoniser les cultures morales, physiques et intellectuelles de façon à avoir des hommes et des femmes bien équilibrés et bien développés. Certains sont qualifiés pour déployer une grande force intellectuelle, tandis que d'autres sont enclins à préférer le travail manuel et à y trouver du plaisir. Hein? Certains ont des inclinations, d'autres en ont d'autres. Mais l'effort que nous devrions déployer, c'est de chercher à faire ce pourquoi nous ne sommes pas naturellement enclins. Ça peut être le travail physique ou ça peut être le travail intellectuel et mental. Oui. Ces deux catégories de gens doivent chercher à corriger ce qu'ils laissent à désirer chez eux afin qu'ils puissent présenter devant Dieu leur être tout entier comme un sacrifice vivant, sain et acceptable, un culte agréable à l'Éternel. J'aimerais lire cette dernière citation, et ensuite nous allons conclure cette longue étude. Dans Évangéliser, à la page 580 et paragraphe 2, il est écrit le suivant. Dieu a confié son œuvre sacrée à des hommes. et il nous demande de l'accomplir avec soin. En toute chose, la régularité est primordiale. Ne soyez jamais en retard à un rendez-vous. Dans aucun département, dans aucun bureau, on ne devrait perdre son temps en conversation inutile. L'œuvre du Seigneur exige des choses dont elle est dépourvue parce que les hommes ne se mettent pas à l'école du Dieu de la sagesse. Ils entreprennent beaucoup trop de choses et remettent au lendemain ce qui devrait retenir leur attention le jour même, et l'on perd beaucoup de temps en essayant de rattraper celui que l'on a perdu. Qu'est-ce que c'est? En toute chose, la régularité est primordiale. En toute chose. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas juste faire quelque chose qui semble directement relié à cette œuvre. C'est également notre vie de chaque jour. Et en toutes ces choses-là de notre vie quotidienne, nous avons besoin de pratiquer, pas juste de connaître, mais de pratiquer la tempérance et la régularité. Et j'aimais bien cette citation qui dit ici, « Ne soyez jamais en retard à un rendez-vous. » Le rendez-vous du repas. Un rendez-vous que Dieu nous donne, parce que c'est Dieu lui-même qui a donné ces horaires-là. Vous voyez? Ne soyez jamais en retard à ces rendez-vous-là. Le rendez-vous du repas, le rendez-vous du sommeil, parce que si nous arrivons à notre lit et que nous avons dépassé l'horaire, nous sommes en retard à notre rendez-vous avec Dieu. Si nous avons un horaire pour lequel manger, et nous dépassons cet horaire, pour quelque raison, égoïste que ce soit, nous avons dépassé cet horaire, nous sommes arrivés en retard à notre rendez-vous avec Dieu. Vous voyez? Ou si nous devons nous lever tôt le matin et nous avons envie de flâner, et nous restons inutilement dans le lit, alors que notre corps ne va vraiment pas en retirer un quelconque bénéfice de rester plus longtemps. Nous sommes en retard à notre rendez-vous de la prière, notre rendez-vous de la méditation de la parole. Nous sommes en retard ensuite à une autre chose, nous sommes en retard au travail, nous sommes en retard. Vous voyez? Et tous ces retards, ce n'est pas des retards que nous avons pas face à des choses qui sont déconnectées de Dieu, c'est des retards que nous avons vis-à-vis de Dieu-même. Donc c'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions tirer un mobile inspirant et suffisant dans notre relation avec Dieu, relation avec Christ, pour être à l'heure dans chacun de nos rendez-vous avec lui. Que ce soit le rendez-vous de nos repas, le rendez-vous de nos heures de sommeil, de nos heures de lever, le rendez-vous de notre nécessité d'aller sortir de la nature, notre rendez-vous d'activité physique, notre rendez-vous peut-être d'activité mentale, notre rendez-vous de méditation de la parole. Puissions-nous, frères et sœurs, ne pas être en retard, mais être à l'heure, à nos rendez-vous avec Dieu. Ma prière que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse intensément dans ce besoin-là que nous avons. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.